Étude sur le chapitre 32 du livre de l'Exode. Une scène bien différente de ce qui nous a occupé jusqu'ici s'ouvre maintenant devant nous. Les images des choses qui sont aux cieux ont passé sous nos yeux. Christ dans sa personne glorieuse, dans ses offices de miséricorde et dans son œuvre parfaite, telle qu'il est représenté dans le tabernacle et dans ses ustensiles mystiques. Nous avons été en esprit sur la montagne entendre les propres paroles de Dieu, les douces déclarations des pensées, des affections et des conseils divins, dont Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Maintenant, nous sommes appelés à redescendre sur la terre pour y contempler l'état de ruine à laquelle l'homme réduit tout ce qui lui est confié. Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons qu'il y est arrivé. » Quelle dégradation se manifeste ici. Fais-nous un Dieu. Ils abandonnaient Jéhovah et se plaçaient sous la conduite de Dieu fait de main d'homme. De sombres nuages et d'épais brouillards s'étaient assemblés autour de la montagne. Et les Israélites étaient fatigués d'attendre celui qui était absent et de s'appuyer sur un bras invisible mais réel. Ils s'imaginaient qu'un Dieu formé avec un ciseau valait mieux que Jéhovah. Qu'un veau qu'ils pouvaient voir valait mieux qu'un Dieu invisible, mais présent partout. Une contrefaçon visible mieux qu'une invisible réalité. Hélas, il en a toujours été de même dans l'histoire de l'homme. Le cœur humain aime quelque chose qu'il puisse voir. Il aime ce qui répond à ses sens et le satisfait. Il n'y a que la foi qui puisse tenir ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreu 11, verset 27. Ainsi, de tout temps, les hommes ont eu la tendance d'élever des imitations des réalités divines et de s'appuyer sur elles. Les contrefaçons de la religion ne sont que trop multipliées devant nos yeux. Les choses que, sur l'autorité de la parole de Dieu, nous savons être de divines et célestes réalités, l'Église professante les a transformées en des imitations humaines et terrestres. Étant devenu lasse de s'appuyer sur un bras invisible, de se confier en un sacrifice invisible, d'avoir recours à un sacrificateur invisible, de s'attendre à la direction d'un chef invisible, elle s'est mise à faire ces choses. Et ainsi, de siècle en siècle, elle a été activement occupée, un ciseau à la main, à former et à graver une chose après l'autre, de telle sorte que maintenant nous ne retrouvons pas plus d'analogie entre une grande partie de ce que nous voyons autour de nous et ce que nous lisons dans la parole de Dieu qu'entre un veau d'or et le Dieu d'Israël. Fais-nous un Dieu. Quelle pensée! L'homme appelé à faire des dieux et le peuple disposé à mettre en eux sa confiance. Lecteurs, regardons au-dedans de nous et autour de nous et voyons si nous n'y découvrons pas quelque chose de semblable. Nous lisons au sujet de l'histoire d'Israël que toutes ces choses leur arrivaient en type et qu'elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. 1 Corinthiens 10, verset 11. Tâchons donc de profiter de l'avertissement. Souvenons-nous que, bien que nous ne fassions pas précisément un veau d'or pour nous prosterner devant lui, le péché d'Israël est néanmoins un type de quelque chose en quoi nous sommes en danger de tomber. Toutes les fois que, dans notre cœur, nous cessons de nous appuyer exclusivement sur Dieu lui-même, soit pour ce qui concerne le salut, soit pour ce qui concerne les besoins de la route, nous disons en principe « Lève-toi, fais-nous un Dieu. » Il est superflu de dire que nous ne sommes aucunement meilleurs en nous-mêmes qu'à Aaron ou les enfants d'Israël. Et s'ils honorent un veau à la place de Jéhovah, nous sommes en danger d'agir d'après le même principe et de manifester le même esprit. Notre unique sauvegarde est d'être beaucoup dans la présence de Dieu. Moïse savait que le veau d'or n'était pas Jéhovah, c'est pourquoi il ne le reconnut pas. Mais quand nous sortons de la présence divine, il est impossible de prévoir les erreurs grossières et tout le mal dans lequel nous pouvons être entraînés. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous ne pouvons rien voir par la vue des sens. Jésus est monté en haut et Dieu nous dit d'attendre patiemment son apparition. La parole de Dieu appliquée au cœur par l'énergie de l'esprit est le fondement de la confiance dans toutes les choses temporelles et spirituelles, présentes et futures. Dieu nous parle du sacrifice accompli de Christ. Nous le croyons par la grâce et plaçons nos âmes sous l'efficacité de ce sacrifice et nous savons que nous ne serons jamais confus. Il nous parle d'un grand souverain sacrificateur entré dans les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, dont l'intercession est toute puissante. Par la grâce, nous croyons et nous nous reposons avec confiance sur sa puissance et nous savons que nous serons entièrement sauvés. Il nous parle du chef vivant auquel nous sommes unis dans la puissance d'une vie de résurrection et duquel aucune influence d'ange, d'homme ou de démon ne pourra jamais nous séparer. Et par la grâce, nous croyons et nous nous attachons à ce chef béni dans une foi sainte. Et nous savons que nous ne périrons jamais. Il nous parle de l'apparition glorieuse du Fils venant des cieux. Et par la grâce, nous croyons et nous cherchons à faire l'expérience de la puissance de cette bienheureuse espérance. Tite 2, verset 13. Et nous savons que nous ne serons pas désappointés. Il nous parle d'un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1, verset 4. Héritage dans lequel nous entrerons au temps convenable. Et par la grâce, nous croyons et nous savons que nous ne serons pas confus. Il nous dit que les cheveux même de notre tête sont tous comptés et que nous ne manquerons d'aucun bien. Et par la grâce, nous croyons et nous jouissons d'une douce tranquillité de cœur. Il en est ainsi, ou du moins notre Dieu voudrait qu'il en fût ainsi. Mais l'ennemi est toujours actif, cherchant à nous faire rejeter ces réalités divines et à prendre le ciseau de l'incrédulité pour nous faire des dieux à nous-mêmes. Veillons contre lui, prions pour être gardés de lui, témoignons contre lui, protestons contre lui, agissons contre lui. C'est ainsi qu'il sera confondu, que Dieu sera glorifié et que nous serons nous-mêmes abondamment bénis. Quant à Israël, dans ce chapitre que nous méditons, il rejeta Dieu de la manière la plus complète. Et Aaron leur dit, « Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Et il les prit de leurs mains et il forma l'or avec un ciseau et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent, « C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Et Aaron vit le veau et bâtit un autel devant lui. Et Aaron cria et dit, « Demain, une fête à l'Éternel. » Verset 2-5. C'était là mettre Dieu entièrement de côté et lui substituer un veau. Lorsqu'ils purent dire qu'un veau les avait fait monter du pays d'Égypte, ils avaient évidemment perdu toute conscience de la présence et du caractère du vrai Dieu. Combien vite ils avaient dû se détourner du chemin pour tomber dans une erreur aussi grossière et aussi épouvantable. Et Aaron, le frère et le compagnon de Moïse dans sa charge, les y conduisit et put dire devant un veau, « Demain, une fête à l'Éternel. » Que cela est triste, que cela est humiliant. Dieu déplacé par une idole. Une chose formée avec un ciseau, de la main et d'après l'imagination de l'homme, fut mise à la place du Seigneur de toute la terre. Tout cela impliquait de la part d'Israël un renoncement délibéré à sa relation avec Jéhovah. il avait abandonné Dieu et, en conséquence, Dieu agit à son égard en se plaçant sur le propre terrain du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de courroide. Et maintenant, laisse-moi faire afin que ma colère s'embrase contre eux et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Verset 7. Il y avait là une porte ouverte pour Moïse, et il manifeste, dans cette circonstance, une grâce peu ordinaire et une rare analogie d'esprit avec ce prophète semblable à lui, que l'Éternel devait citer. Il refuse d'être ou de recevoir quoi que ce soit à l'exclusion du peuple. Il plaide avec Dieu sur le fondement de sa propre gloire et replace Israël sur lui dans ses touchantes paroles. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils disant « C'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la face de la terre ?» Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit « Je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé et ils l'hériteront pour toujours. » Versets 11 à 13. C'était là un puissant plaidoyer. La gloire de Dieu, la justification de son saint nom, l'accomplissement de son serment, telles sont les raisons sur lesquels Moïse s'appuie pour supplier l'Éternel de revenir de l'ardeur de sa colère. Il ne pouvait rien trouver en Israël sur quoi il put fonder son intercession. Il trouvait tout en Dieu lui-même. L'Éternel avait dit à Moïse, « Ton peuple que tu as fait monter. » Mais Moïse répond à l'Éternel, « Ton peuple que tu as fait sortir. » Les Israélites étaient le peuple de l'Éternel malgré tout. Et son nom, sa gloire, son serment étaient tous impliqués dans leur destinée. Du moment que l'Éternel s'unit à un peuple, sa gloire est en cause, et c'est sur ce fondement solide que la foi regardera toujours à lui. Moïse s'oublie lui-même entièrement. Toute son âme est occupée de la gloire et du peuple de Jéhovah. Heureux serviteur, il y en a peu comme lui. Et néanmoins, au milieu de toute cette scène, combien il est loin d'être à la hauteur du bienheureux maître. La différence entre eux est infinie. Moïse descendit de la montagne, et quand il vit le veau et les danses, sa colère s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables, verset 19. L'alliance était rompue, et les témoignages de cette alliance mis en pièces. Puis, ayant dans une juste indignation exécuté le jugement, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, et maintenant je monterai vers l'Éternel. Peut-être ferai-je propitiation pour vos péchés. » Verset 30. Combien ceci est différent de ce que nous voyons en Christ. Il descendit du sein du Père, non avec les tables de la loi dans sa main, mais avec la loi dans son cœur. Il descendit, non pour prendre connaissance de la condition du peuple, mais avec une connaissance parfaite de sa condition. En outre, au lieu de détruire les témoignages de l'Alliance et d'exécuter le jugement, il magnifia la loi et la rendit honorable, et il porta dans sa propre personne bénie, sur la croix, le jugement de son peuple. Puis, ayant tout accompli, il remonta au ciel, non avec un « peut-être ferai-je propitiation pour votre péché », mais pour déposer sur le trône de la majesté dans le lieu très haut les témoignages impérissables d'une expiation déjà accomplie. Cela fait une différence immense et vraiment glorieuse. Béni soit Dieu. Nous n'avons pas besoin de suivre avec anxiété notre médiateur pour savoir si peut-être il accomplira la rédemption pour nous et apaisera la justice offensée. Non, il a tout accompli. Sa présence dans les cieux déclare que toute l'œuvre est achevée. Sur les limites de ce monde, prêt à les quitter, il a pu dire avec tout le calme d'un vainqueur conscient de la victoire, bien qu'il eût encore à passer par la scène de toute la plus sombre, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17, verset 4. Bienheureux Sauveur, oui, nous pouvons t'adorer et triompher de l'honneur et de la gloire dont t'a revêtu la justice éternelle. La place la plus élevée dans les cieux t'appartient et tes saints ne font qu'attendre le temps auquel tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Puisse ce temps arriver promptement. À la fin de ce chapitre, Jéhovah proclame ses droits en gouvernement moral par les paroles suivantes. Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi, et le jour où je visiterai sur eux leurs péchés. Verset 33-34. C'est là Dieu en gouvernement, non Dieu dans l'Évangile. Ici, il parle d'effacer le pécheur. Dans l'Évangile, on le voit effaçant le péché. La différence est grande. Le peuple doit être conduit sous la médiation de Moïse par la main d'un ange. Cet état de choses était bien différent de celui qui avait existé entre l'Égypte et Sinaï. Israël avait perdu tout droit fondé sur la loi et ainsi il ne restait plus à Dieu que de rentrer dans sa propre souveraineté et de dire « Je ferai grâce à qui je ferai grâce et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Chapitre 33, verset 19.